Puisque la beauté est dans les mains de ceux qui la préservent.
Bonsoir, bienvenue dans un nouveau numéro de la revue audio Il Disegno, dans un contexte spécial bien sûr de confinement. Jusqu'ici, depuis la mi-mars, nous avons eu des rediffusions. Ce soir, exceptionnellement, c'est une nouvelle émission. Une émission qui se projette dans le futur, dans l'après-confinement, l'après 11 mai qui doit être, à ce qu'on nous promet, un temps nouveau, une nouvelle France, une nouvelle société. J'ai pu réaliser avec une des personnes, à ma connaissance, les mieux qualifiées pour traiter du social, selon l'angle qui est le nôtre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette émission, notre angle, c'est celui de la beauté dans toute chose. Alors, qui ose parler de la beauté du social, et non pas de ce sujet comme d'un boulet qu'il faut traîner avec soi? Je sais que Laurie Dièvre, présidente de La Voix Sociale et Édition, pourra le faire. Cette structure, La Voix Sociale et Édition, est déjà apparue ici via les auteurs qu'elle édite, émission qui a été rediffusée d'ailleurs il y a 2 semaines. Nous sommes avec elle aujourd'hui pendant 1 heure pour échanger, et puisqu'il s'agit de regarder vers le futur, nous avons décidé d'intituler cette émission « L'homme de demain sera hors norme ».
Entre tes doigts, l'argile prend forme. L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira.
Bonsoir, Laurie Dièvre.
Bonsoir.
Je dois dire que tu es chanteuse. J'ai envie de demander pourquoi une chanteuse comme toi a créé une structure sociale.
Alors pourquoi ? Parce que finalement, j'ai trouvé ça assez gênant, la starification, assez tôt. Alors qu'en fait, ce qui est important dans ce qui est exprimé quand le chanteur chante, c'est pas d'autant qu'il est bon à chanter, etc. Et tout. C'est qu'il est capable de transmettre les émotions telles qu'il les vit, sans les interpréter, les malmener, et voire même les maudire. Pour arriver à quand même dire la chose, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaisait. Ça fait la différence. Ça fait la différence et qui fait que finalement je ne vis pas de l'art du chant, malgré mon activité aussi partielle dans ce domaine-là, parce qu'il me faut toujours une cause pour aller chanter. Je peux pas chanter parce qu'on me dit bah là vous êtes payé tant, non, non. C'est, pour moi ça peut pas se marchander en fait. Faut arrêter avec tout bout de chant, vouloir monnayer en fait.
Et justement, on sent bien que le mouvement, l'élan vers les choses étant le moteur qui va permettre l'action. Je dis l'élan, on pourrait dire l'amour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la société et qu'est-ce que tu détestes le plus aujourd'hui ?
Alors, ce que j'aime le plus dans la société, c'est le moment où les personnes sont obligées de s'écouter pour avancer, quoi. C'est vraiment le moment où en fait, on doit se concerter et une décision est prise là vraiment parce qu'on s'est concerté et qu'on est arrivé ensemble, à l'évidence que c'est la meilleure solution. Enfin, c'est là où finalement on abandonne le côté « c'est pour ma chapelle », ceci, cela, et puis ben, on arrive à trouver ce qui va... Et voilà, c'est précis, hein, c'est quelque chose qui se fait pas comme ça, où on décrète « bon, ben, c'est comme ça, puis c'est tout ». Bon, on arrive à faire ça avec nos enfants, mais bon, on voit bien qu'à un moment donné, ils sont pas très... ils sont pas très d'accord avec ce système-là, hein, et ils trouvent ça un petit peu primaire. Donc, on va avoir besoin de davantage. Je crois que ce que je déteste le plus, c'est le rejet par facilité, le rejet par évitement, le déni. C'est un petit peu un ensemble, quoi. Ce qui va permettre le rejet, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est une bataille de tous les jours. Je pense qu'il concerne chacun de nous au plus près. À quel moment on va rejeter quelque chose plutôt que de trouver comment.
On a plein de situations où on peut se sentir rejeté alors que finalement quasiment rien ne s'est dit. Qui d'entre nous n'a jamais souffert de se sentir rejeté de cette façon-là. Je pense que dans le travail que tu effectues auprès des personnes sur le terrain, c'est quelque chose auquel tu es confronté souvent.
Alors je pense que très vite, il y a un discernement à observer, c'est-à-dire à partir du moment où on dit ben, en fait, finalement le rejet, ce qui va motiver le rejet, bon, ben, voilà, j'aime pas le rejet. Alors, à partir du moment où on dit j'aime pas, ça veut dire qu'on l'accepte pas, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'on peut accepter quelque chose qu'on n'aime pas. Alors ça paraît complètement fou de dire un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est j'aime pas, donc revers de la main. Là, c'est quelque chose qui, à la limite, n'existe même pas. Je ne veux même pas en entendre parler. Enfin, voilà, y a tout le côté borborigmatique du rejet pur et simple.
Des choses qu'on n'aime pas jusqu'au jour où on se met à les aimer.
Oui, tout à fait. Comme la voix humaine, par exemple, qui est un très bon exemple. Bon. C'est vrai que c'est souvent, tellement souvent, j'entends des personnes me dire « Moi, j'aime pas ma voix, elle est comme ci, elle est comme ça. » Ils n'arrivent pas à avancer avec, finalement. Et puis, jusqu'au moment où ils vont entendre quelque chose de leur voix qui va leur dire « Mais en fait, si... C'est une voix qui peut être autrement, c'est aussi la voix de quelqu'un d'autre, et donc à partir du moment où c'est la voix de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup moins gênant. Et cet autre-là, finalement, c'est celui-là avec lequel on n'est pas tout à fait résolu, hein, c'est-à-dire on a ce pouvoir de représentation de soi-même, c'est-à-dire se représenter à soi-même, on est l'image de, on a un miroir, donc on est à la fois dans ce miroir, et puis... à l'intérieur du propre corps, qui est cet incroyable corps humain qui nous offre quand même des capacités extraordinaires, dont l'appareil phonatoire. Et là, finalement, on arrive à se dire bon, bah, en fait, je peux aussi être quelqu'un d'autre, et puis peut-être que je pourrais éventuellement un jour m'accepter tel quel et voir ce qui se passe quand je m'accepte tel quel le plus précisément soit-il. Et je crois que souvent. Voilà, la miniature, on n'a pas tout à fait compris ce que c'est encore.
Oui, c'est difficile d'entendre sa voix parce que c'est comme la voix, c'est comme une sorte de reflet de la forme qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes qui sort à l'extérieur. C'est-à-dire que les autres, quelque part, peut-être que je tire un petit peu sur une ficelle là, mais quelque part, les autres entendent la forme ou l'aspect de ce qu'il y a dans notre corps. Et qui fait cette difficulté à s'entendre, que ce soit un qui n'a jamais vécu ça, s'entendant enregistré, se voyant dans une vidéo, « Ah, ma voix, je déteste ma voix !» Et donc, là, c'est sur cette matière-là que tu travailles avec les personnes. C'est ultra stratégique dans le développement d'un individu.
Oui, complètement. Et c'est là que j'amène très vite un distinguo, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comme on appelle aujourd'hui, parce qu'on a une vision du design qui est très déformée, de design vocal. Alors voilà, quand on dit design vocal, il faut tout de suite donner une définition derrière de ce que c'est que le design pour la personne qui le fait, parce que s'il s'agit de déformer la voix pour lui donner des aspects, etc., donc de la styliser en gros, hein, lui faire un peu ce qu'on veut, pour donner des super voix comme ça, bonsoir, bonjour. Voilà, ou encore autrement, oui, ce serait bien. On a en fait cette capacité de stylisation qui est extraordinaire, qui est très multiple. Alors oui, à ce moment-là, on peut avoir une voix beaucoup plus... Et donc, tout le monde a un peu ces capacités-là. Mais il faut faire attention avec ça, parce que c'est un peu comme, finalement... moi, je dis souvent ça quand je vois de la BD, c'est pour ça que j'ai sans doute du mal avec ça. La BD, en général, c'est que c'est extrêmement stylisé, le dessin très typé, comme ça. Et bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas du tout. C'est un peu tirage au sort. Et voilà, le style c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire, si on n'a pas la base naturelle, c'est-à-dire, je trouve que l'image du champ de fleurs sauvages, s'il en est encore, vraiment le champ de fleurs sauvages, il dit bien, voilà, la voix, quand elle est à l'état naturel, elle est pas régulière, quoi. Elle n'est pas toute nette tout le temps, elle n'est pas continue, monotonale, etc. Enfin, voilà, on n'est pas des monolithes, en fait. On est quand même bien des êtres sensibles, tout aussi bien que les animaux, les plantes, et c'est ce que nous rappelle aujourd'hui la nature avec ce qui se passe en ce moment. On est des êtres sensibles qui sont fragiles et qui doivent pas faire n'importe quoi, en fait, avec ce qui les entoure et ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et je crois que la voix, elle nous rappelle à ça tout le temps, mais elle est bien... Encore une fois, elle est bien négligée tout en étant indispensable, quoi. Comme beaucoup d'entre nous, finalement, chacun de nous est indispensable, mais beaucoup d'entre nous sont négligés.
Ce qui amène une question qui va nous rediriger tout naturellement de la voix vers le social. Évidemment, la voix, un support premier du social, on se parle, on se dit des choses, il y a même des accords, des contrats qui se font de façon orale. Il fut un temps, l'écriture n'existait pas, et tout passait donc par l'oralité. Je voulais en venir à ça, la place de la sensibilité dans le social, dans la société, dans le futur de la société. Alors là, on est tout à fait, il me semble, dans ton champ.
Ah oui, Moi, j'aime bien cette vision du champ, de l'agriculteur, du maraîcher, qui a une échelle humaine, c'est-à-dire que lui, il peut maîtriser seul, et il sait quoi, comment faire, où l'emmener, etc. Et en général, il a besoin de la nature, il a besoin des bocagères, il a besoin du ruissellement des sols, etc. Et finalement, notre sensibilité, c'est un peu ça aussi, c'est aller à cet endroit-là aussi. On a besoin de ce petit fil sensible qui nous guide et qui nous dit « Bon, bah, aujourd'hui, ça va, tu vas pouvoir faire ça, tu vas être efficace ici, mais alors peut-être pas là. Tu devrais peut-être t'occuper plus de tes enfants aujourd'hui, parce qu'en fait, ils sont en train de te lâcher, là. Ou toi, t'es en train de les lâcher. Et en fait, il y a voilà, écrire un mot à son compagnon, à sa copine, voilà, et on ne sait jamais finalement ce qui se passe dans une journée, dans une semaine, et ça c'est énorme, c'est pas oublier ça quoi. Et le sensible, il est là, et on fait comme s'il était quelque chose qu'on peut dire non ou oui, parce qu'en général, ceux qui dictent ça, ils ont malheureusement beaucoup souffert de leur sensibilité, mais non pas parce qu'ils en ont une, mais surtout parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à en revenir, quoi, d'en avoir une aussi intense qui les ramène à une réalité qu'ils n'ont peut-être pas du tout envie de regarder. Voilà, là-dessus, le sensible, c'est ce qui fait qu'on a duré jusqu'à aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire, c'est une source, c'est une culture, c'est une recherche de la vérité au sens le plus... simple qui soit, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, qu'est-ce qu'on a apporté, nous, les humains, au regard des autres règnes du vivant, etc., qu'est-ce qu'on est. Donc, évidemment, dans le social, c'est tous les jours, hein. Des questions comme celle-là, surtout, voilà, quand il y a un jeune qui vous envoie complètement boulé dans une journée, parce qu'il n'a aucune idée de ce que vous faites dans la vie et qu'il est persuadé que vous êtes aussi idiot et stérile que tout le monde qu'il a pu rencontrer et avec qui il s'est pris un mur, quoi.
Là, tu évoques la violence latente des rapports, et c'est vrai qu'on peut avoir cette impression que lors de notre arrivée sur Terre, à chacun de nous, là, on est... La guerre, en quelque sorte, est déjà là. Il y a déjà des parties, il y a déjà des scissions. On est sommé très vite de se placer dans tout ça, dans un état de fait chaotique et qu'on peut trouver contre nature, mais dans lequel on nous demande de nous positionner. Autant le bébé, lui, il arrive avec toute son énergie, son désir immense de découverte. Et puis, très vite, le sourire devient quand même amer, enfin.
Il se perd. Voilà, c'est, je dirais que si on arrive à réussir quelque chose, déjà si on arrive à faire que l'humain préserve son sourire, son énergie de la naissance jusqu'à plus tard, le plus tard possible en fait, peut-être même jusqu'à la fin, ce serait évidemment exceptionnel. Je pense qu'il y a des exceptions et qu'ils arrivent à nous en parler, quoi, de l'exception qu'ils ont pu vivre. En tout cas, ce serait une bonne chose de communiquer là-dessus. Est-ce qu'on est fait pour ça ? Voilà, on n'est pas forcément fait que de plaisir, certainement que non. La douleur fait partie de la vie, puisque pour donner la vie, il y a la douleur aussi. Cette douleur qui n'est pas insurmontable, parce que justement, elle est là pour donner la vie, quoi. C'est-à-dire, la création, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas confortable. En tout cas, il me semble qu'on ne devrait pas perdre de vue cet échange, voilà. Être heureux, un peu d'inconfort, mais être heureux parfois pour suivre sa sensibilité. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de routine, il n'y a pas... Et évidemment, on ne change pas des habitudes très très longues du jour au lendemain.
Alors au milieu de tout ça, de toutes ces différences, la voix, qu'elle soit parlée, chantée, je sais que dans ton enseignement, dans ta pratique aussi d'accompagnement ou de soutien social, la voix parlée autant que la voix chantée sont primordiales. Eh bien, tu chantes dans de nombreuses langues. la voix, à ce moment-là, devient le lien, la soudure, la couture du monde.
Oui, c'est une belle représentation. Ouais, ça fait voir le vêtement autrement. Est-ce que la voix suffit pour s'habiller ? Je ne sais pas. Mais en fait, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'il est plus difficile de parler que de chanter en réalité. Quand on parle, souvent, les phrases sont plus longues. Et puis, il y a ce côté un petit peu, je dois défendre ce que je dis. Je sais pas, comme un oiseau qui chante. Parce que peut-être que quand les oiseaux chantent, ils parlent. Enfin, on sait pas trop. Et donc, quand on va parler, on a tout de suite ce côté, le propos que j'ai, est-ce qu'il va être vrai, est-ce qu'il va être juste, est-ce que je vais tomber. En fait, c'est déjà la guerre ouverte, quoi. Alors que finalement, dans la voix chantée, il y a ce côté libératoire. C'est-à-dire, finalement, on va chanter quelque chose pour se libérer de quelque chose. Et la voix parlée pourrait être de même, hein. Mais ça demande de faire le point sur l'intention qu'on a, perpétuellement, et à chaque phrase. Et en fait, ça nous bouscule tellement tout ce qu'on manie, tous ces mots qui sont en fait des objets et qui sont liés au passé, au présent, reliés à l'histoire, etc. C'est très encombrant, tout ça. Et étant donné que c'est tellement encombrant que ça devient très dur de se déplacer là-dedans. Et alors, la voix chantée, finalement, ça devient un lien, en effet... tellement simple, c'est-à-dire que ça va directement aux émotions, directement au cœur, au corps. Si je peux illustrer, je vais vous chanter 4-5 morceaux. Faire le tour du monde parce que mais il y a du beau partout. Donc ce premier air en chinois qui parle de la beauté perdue tout au loin. Pei fang jia ren zhe xi er du li yi gu ke rang shi zai gu qing ren wu perdu tout au loin se cache une peur beauté éternelle aux yeux pailletés d'or. En français, bon, j'ai choisi quelque chose qui est un peu moins... apparemment moins poétique dans la forme, mais justement, l'intention par contre est assez claire. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file, tout droit. De toute façon, il n'y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Moi, ouais, voilà, c'est assez net que il y a un blème. Donc, c'est à l'aube de l'an 2000. Hein. On a ajouté un 2, un 0 en plus. Donc, 20 ans plus tard, est-ce qu'on a avancé beaucoup? Bon. Je continue mon petit tour du monde avec on va dire l'ancestrale musique noire américaine qui, évidemment, a sans doute permis que le rêve américain existe. My head is crying, lonely teardrops. My pillow never dry, lonely teardrops. Come home, come home. Just say you will, just say you will, say you will. Hey, hey, hey. My hair is crying, crying. Lonely teardrop, my pillow never trail. Lonely teardrop. Lonely teardrop. Ah, évidemment, tout de suite ça swing. Rapidement, comme ça, évidemment, à ce qu'on appelle a cappella. Et il faut savoir qu'à l'époque, les groupes étaient justement. Leur entraînement était d'abord de chanter a cappella. Il fallait que ça tienne a cappella pour après que ça tienne avec la musique. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a bien oublié. Parce qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, la musique qui fait le porte-manteau et puis la voix qui fait le manteau qui est sur le porte-manteau. Et c'est bien, mais en fait, c'est important quand même de savoir si tout tient indépendamment. Et ça, j'encourage un peu tous les groupes, les chanteurs, chanteuses à faire cet exercice-là. Et moi, c'est mes élèves, en général, je les exerce à ça. Donc c'est pour ça qu'on fait des tours comme ça en lieu d'acoustique, par exemple, pour leur donner de la facilité dans l'exercice, parce qu'on a un peu perdu ça, lui. Alors on continue le petit tour avec italien. Alors justement, petit hommage aux Italiens qui ont bien souffert là et qui nous ont donné quand même le goût de la beauté aussi. Hein. Donc allez, du bel canto. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spunto. Quelle festose giovani invidiar sembro che più cercando io vo, mamma sì mamma lo vedo, lo vedo. Alors là on continue justement avec ce petit air latino qui évidemment a toute la poésie aussi de l'Amérique latine. Che una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a la casita sola con su puertita de par en par. Lloran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Curucucucu, paloma. Curucucucu, no llores. Paloma. Alors là, avec une petite note, voilà, sifflée, petite note perso, mais voilà, parce que aussi c'est quelque chose qu'on oublie, la voix sifflée. C'est aussi un art et il y en a qui ont fait un art à part. Donc il y a des pointures dans le domaine qu'on n'entend pas beaucoup. Donc. Puis bon, bah, on continue avec un dernier air. Un dernier air de nos amis indiens qui sont à l'origine de tant de nos langues qu'on on nomme en nombre, voilà, comme étant la racine de nos langues, hein, indo-européennes. Donc quand on dit indo-européenne, normalement on parle aussi un peu de cette langue-là, donc c'est important. Dunia men kitni hai na fratin. Fir bi dilumen hai chatin, dunia men kitni hai na fratin, fir bi dilumen hai chatin, mar bi jaye pyar wale, mir bi jaye niyar wale. Zindarti en un ki mohabbaten, zindarti en un ki mohabbaten.
Grazie tante. Alors là, je ne peux que le dire en italien. Merci, merci Laurie Dièvre pour cet a cappella mondial ce soir sur Syllabe dans Il Disegno.
Chacun des pays est né. Et des orateurs de ces langues me pardonnent.
Alors la sensation actuelle, disons depuis déjà maintenant presque 2 mois, pour tout un chacun, je suppose, est à la fois un peu bizarre et gênante dans ce contexte de confinement. On sent qu'il y a des choses qui bougent sans beaucoup de visibilité. Beaucoup de choses nous échappent. On se demande, dans cet état général qui est présenté comme un état d'exception, ce qui va durer, ce qui ne va pas durer. Quel regard portes-tu déjà sur ce qui est vécu, que tu vis toi-même et que tu vois autour de toi?
Alors déjà, il y a des choses qui étaient quand même bien en place, qui étaient bien avancées, bien amorcées, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Des choses qui étaient déjà bien amorcées avant, notamment tout ce qui est fragilité justement sociale de certaines personnes, certains niveaux de revenus, puisque c'est quand même bien ça dont il s'agit malheureusement, c'est-à-dire on n'est pas à l'ordre des considérations, c'est-à-dire ce que quelqu'un est capable de considérer dans ce qui est, ce qu'il est capable d'apporter aux autres, ce qu'il est capable de reconnaître chez les autres, c'est plutôt son niveau de revenu qui va lui donner du confort, plus ou moins de confort, beaucoup de confort, pas du tout de confort, enfin bref. Et qui va faire de lui plus ou moins finalement ou quelque part un esclave ou quelque part ou de lui-même ou d'un autre ou d'une autre ou d'une entreprise ou, voilà, aujourd'hui finalement ça repose cette question-là. Moi je dirais on peut présenter les catastrophes sanitaires, c'est certain, et de toute façon sur le plan sanitaire, le plan de l'hygiène, on n'est pas très bon, nous les Français non plus. Il y a d'autres pays qui sont un peu mieux placés dans l'analyse, dans la prise en main. Et c'est surtout que, pour ce qui est de se rendre malade, puisque finalement, le social, c'est ça que ça traite comme sujet, pour ce qui est de se rendre malade, on est quand même un petit peu tous bien placés, quoi. Tous les pays du monde ont un petit peu leur lot, leur casserole, qu'ils ont accepté, refusé. Certains ont accepté, pas d'autres, qu'on a fait passer devant, etc. Donc c'est ça qui, à mon avis, ce qui accuse le coup, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tout excès, il y a un moment donné où la nature même nous dit stop, quoi. Elle nous dit là, ça dégénère.
Alors Laurie, peux-tu nous tracer en quelques lignes, quelques mots, un bref historique, quelques lignes fortes de l'histoire de la structure que tu as créée, La Voix Sociale et Édition?
2014, dans les faits, bien avant, dans les lignes, et ces lignes elles ont commencé assez tôt puisque j'avais un petit peu ça qui naissait dans mes idées déjà à 3 ans, je disais justement ce qui est important c'est vivre et pas survivre, donc c'est voilà, ça peut peut-être donner une petite idée de la vocation derrière. Pour moi le social c'est ça, c'est né au fur et à mesure du temps avec tous les enjeux sociaux, d'éthique, de poétique plutôt que de politique, etc. Donc c'est vraiment des choses que j'ai observées, j'ai participé à un certain nombre de causes et de cours toutes sortes, j'étais auditeur libre assez tôt aussi, donc j'ai eu l'enseignement des arts et dans les arts j'alliais justement l'oralité et l'image, donc il y avait toujours ce travail-là. Donc pendant toutes mes études, ça existait. Et puis petit à petit, s'est forgé le noyau de La Voix Sociale, en fait, avec l'observation de tous les manques, et notamment pour tous les domaines des arts, des artistes de plein de domaines, vraiment avec des grandes difficultés, c'est-à-dire malgré que tant soit si bien connu, c'est toujours les mêmes problèmes des centaines d'années plus tard, quoi. Donc y a vraiment eu ce passage à l'acte avec la naissance d'une structure qui permet d'amorcer, avec tout l'inconfort que ça a pu avoir et que ça a encore, amorcer un état de recherche. Y a vraiment la création comme enjeu de départ, et puis il y a toute cette dimension sociale du créateur de tous les jours, en fait, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans tous les métiers. Et l'oralité, pourquoi? Parce que justement on est entouré de textes, hein, qui nous disent quoi faire, pas faire, et il faut pas oublier que l'oralité passe aussi dans la main de l'écrivain, quoi. Elle est là avant. Et malgré l'écriture, l'oralité est là, quoi. Et c'est ça sur lequel on se repose. On se repose aujourd'hui sur des grands mots, des orateurs qui ont su faire pérenniser leurs pensées. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, elles soient fidèles à ce qu'on est et à ce qu'on veut devenir. Et donc la voix sociale, elle a ce rôle-là un petit peu d'accompagner le fait d'être fidèle à soi-même et de devenir avec ce qu'on est quand on arrive à s'apprécier, voilà, ce qu'on est. Et c'est cet être-là qui doit devenir, quoi. Et finalement, la voix sociale, elle est là pour donner le supplément d'âme à un projet, à quelqu'un, pour qu'il soit capable de s'émanciper de son milieu, en fait. Du cadre hors cadre, du champ hors champ. Parce que voilà, on peut agiter des cadres comme ça et vouloir que tout le monde rentre dedans, mais en fait, agiter des cadres, s'ils ne fonctionnent pas pour la personne, c'est une agression, hein. Je veux que tu rentres dans ce cadre, ben non, en fait, ta tête passe pas. Donc évidemment, on est sur ce billet-là, et la voix sociale ne cherche pas du tout le conflit, mais bien au contraire, parce qu'on n'en a que trop du conflit, on est bercé par ça, on est damné par ça, même, je dirais.
Où se situe la beauté dans ce que vous faites pour le social, pour la société? Parce qu'on l'imagine, dans le contexte d'aujourd'hui, il y a des moments où on a envie de tout plaquer.
Où est la beauté? Eh bien, au plus près de soi, avec l'autre, quoi. Et arriver à faire l'effort d'aimer les autres au-delà de ses propres limites. Et là, la beauté, elle transfigure évidemment toute la laideur de ce qui me semble le plus dur à vivre, c'est-à-dire ce qui est contre nature. Donc la beauté, elle est finalement dans la persistance, à tenir bon et à approfondir les choses, à rendre, à être plus proche de ce qu'on pense et à le dire, en fait. Et moi, j'ai souvent ce réflexe, c'est d'amener dans une situation quotidienne à se dire, en fait, là, j'ai quelque chose à dire, bon, alors pourquoi je le dis pas, je vais le dire. Et on en est capable. On est tous capables de ça. Et évidemment, ça peut nous changer la vie de le faire. Voilà, là, moi, je rêve, c'est d'offrir un cadre à la drague, quoi. Un nouveau cadre, quoi. C'est-à-dire qui soit capable, en fait, que toutes les propositions puissent rentrer dans leur cadre, parce qu'ils ont quand même un tas d'artistes qui sont prêts à travailler avec eux pour savoir si un travail ou un projet est vraiment à poursuivre, à élaborer, etc. Donc il y a toute une maturité, tout comme justement des fruits, on n'a pas intérêt à les ramasser verts, ça existe aujourd'hui malheureusement, mais... Et voilà, il y a toute une intelligence de la progression du travail artistique, et on est suffisamment nombreux pour organiser tout ça. Par contre, il faudrait un petit peu changer la donne, quoi.
Il y a une expression qui a bien pris racine en France, c'est celle de cas social. Alors comment est-ce que tu regardes cette expression, le cas social?
Alors le cas social... Cas social. Alors, casos, pour les en langage familier, on va dire. C'est un peu comme on dirait pour le camembert. Enfin, on appellerait, calandos, ou on a des appellations comme ça, des petits noms. C'est assez dangereux, ces petits noms, justement. On appelle, soi-disant, le langage familier, mais en fait, c'est un petit peu... je te traite, et puis, comme c'est du langage familier, c'est pas grave. C'est un peu comme la blague, quoi. Ça, à tout bout de champ, on peut dire c'est une blague, on peut dire n'importe quoi, puis derrière on dit c'est une blague, et puis en fait on fait passer un message qui peut être assez catastrophique. Je dirais que ce casos, c'est surtout une situation un peu périlleuse. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans une situation périlleuse, pour moi, c'est ça le cas social. Le cas social, c'est le moment où la société doit faire cas d'une situation. Mais attention, ça ne veut pas dire un pauvre, nécessairement, une personne étrangère en situation difficile, une femme avec enfant, isolée, etc. Il faut arrêter ces espèces de schémas comme ça, réducteurs, sur un certain type de personne et tout, qui est une forme de racisme déguisé. Mais le cas social, lui, qui s'est un petit peu, par la force des choses, différents événements, un accident... entraîné par quelqu'un, voilà, c'est mal déroulé, il se passait un truc, donc ils sont, voilà, il y a de la culpabilité derrière, il peut y avoir tout un tas de choses, et en fait, il est cassé. Et là, à ce moment-là, il y a une fragilité qui peut devenir, peut s'étendre. Je pense par exemple à des situations où la personne est mal à l'aise, ou elle est mal dans sa vie, etc. Puis du coup, ben, elle va accepter de faire du deal, ou elle va accepter de qu'il se passe des trucs chez elle ou chez lui, mais qui n'a en fait pas du tout envie que ça se passe chez lui ou chez elle.
Donc ça a à voir avec une incapacité à poser un cadre éthique autour de soi, à le faire respecter.
Oui, je pense que, justement, je reviens exactement au fondement, c'est-à-dire on s'est tellement fait l'a priori que c'est quelqu'un qui est, de toute façon, qui est pauvre. Oui, à ce moment-là, la personne qui a un cas social, elle est pauvre en esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'est dans l'absolu, c'est juste que dans cette situation-là, à ce moment-là, elle l'est. On se rend bien compte aujourd'hui qu'un certain nombre de personnalités politiques, c'est vrai qu'ils sont mis dans des situations où bah, les pauvres, ils sont pauvres en esprit aussi, parce qu'ils ont quand même dupé le citoyen, ils sont servis dans la caisse, ils ont mal géré ou pas géré du tout, finalement, le bien commun qu'ils sont censés représenter. Là, ce sont des cas sociaux. Ouais, à ce moment-là, chaque personne, quel que soit son milieu social, devient un cas social. À partir du moment où il s'est mis dans une situation périlleuse par rapport à la communauté. Et c'est vraiment ça qui est important. Et en fait, cette personne-là, à ce moment-là, qu'on peut appeler marginale, mais marginale parce que en fait, elle est isolée. Il faut bien reprendre le terme marginal, parce que là, on a tendance à l'associer de façon complètement abusive à un artiste, c'est un marginal, mais ça vient des années 70, les parents qui voulaient débarrasser des enfants, ils disaient « Ah, bah tiens, ça, c'est un marginal, de toute façon, laisse-le tomber, on va le déshériter, il n'en a pas besoin, évidemment. » Non, c'est un abus de langage. Ah, le cas social, il est marginal parce qu'il est seul à ce moment-là. C'est pour ça qu'on doit l'aider. C'est pas parce que nous, la société, on est quand même des bons samaritains et donc on va quand même aider les personnes qui sont complètement à la ramasse. Non, c'est un devoir parce qu'aucun d'entre nous ne doit souffrir seul.
Il y a aussi le type de la personne. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être un point très important là, pour les années qui viennent. C'est la personne qui ne sait pas quoi faire de sa vie.
Ah oui, c'est le monde du futur, ça. C'est le jour où chacun d'entre nous admettra à un moment donné que c'est pas du tout quoi faire de sa journée. C'est pas parce que on va prendre un boulot ici ou là, un gagne-pain comme ci, comme ça, et qu'on aura fait bonne figure ou auprès des parents, ou auprès des copains-copines, ou auprès de ce qui est censé être bien de faire, ou qu'on aura rempli son compte en banque, etc. Et tout, ça va jamais nous apporter je dirais, l'amour du métier. Jamais le métier va nous appeler et nous dire « Là, viens me chercher aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que tu dois venir me chercher. Hein. » Évidemment, quand on travaille la voix, on se rend compte aussi de ça. Et même Elvis en parlait justement « Tiens, aujourd'hui, j'ai une voix super. Bon, il faut aller filer au studio, il faut aller enregistrer, etc. » Mais c'est tout à fait ça. En fait, finalement, je crois que c'est avec le temps qu'on a un problème, justement. Le fait d'être à la fois dans le temps et atemporel, ça nous perturbe. Alors, est-ce que c'est l'écriture qui a amené comme ça des choses très figées ? Est-ce que c'est le fait qu'on ait pris des philosophes, là, puis qu'on les a figés dans le temps, puis c'est devenu notre pensée absolue, quelque part, forgée sur des piliers depuis longtemps ? Et donc, finalement, on se perd entre le côté volatile du temps et puis ce côté plombé. Hein, parce que finalement, il y a un peu ce côté-là aussi. On peut être à la fois très très lourd, nous les humains, et puis en même temps, d'un coup, extrêmement léger sur des sujets, et même parfois sur des sujets qui ne devraient pas du tout être légers. Donc il y a ce côté comme ça, très qui peut être parfois ambigu.
Et là, dans cette errance brinque-ballante dont tu nous parles, de la vie, que tout un chacun connaît bien, est-ce que la voix, ça n'est pas la fleur émergente qui permet de naviguer, de se retrouver, de se reconnaître potentiellement à chaque instant ? Et potentiellement de ne pas se reconnaître, parce que la voix, hein, il y avait l'exemple d'Elvis, on la trouve, on la perd, on ne sait plus pourquoi, on ne sait plus pourquoi on la retrouve, on ne sait plus pourquoi on l'a perdue, mais en tout cas, c'est comme le ruisseau, le flot, ou le sifflement de l'oiseau, je ne sais pas, en tout cas, un fil tendu, distendu, sur lequel on marche ou on ne marche pas.
Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que tendu, distendu, pour le coup, c'est bien ça qui se passe. Il y a aussi la pression qui joue un rôle important dans la voix. Et la pression, on la connaît tous, c'est « vas-y, fais ça, attention, t'as plus que 2 jours pour finir ton travail, sinon tu vas te faire taper sur les doigts » ou « j'ai plus qu'une semaine, sinon je dois livrer et ça va pas être prêt », enfin bref. On se les met, les pressions, on va la recevoir, on va l'accepter, on va la refuser, enfin. Et à la base, c'est vraiment un processus vital. C'est pas mauvais en soi. Mais en effet, la voix humaine, et c'est un mystère quand même. C'est-à-dire, même si on peut l'expliquer scientifiquement, on peut l'expliquer. Voilà, un phoniatre nous expliquerait très bien comment fonctionne la voix, etc. Mais en fait, c'est pas si simple que ça quand même. Il y a des choses. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a une part de l'âme qui est dans chacune de nos voix. Et que justement, quand on la libère, on la rend à elle-même en entier et qu'on arrive à s'accepter soi-même telle qu'elle, avec toute la différence qu'on est et toute la différence de l'autre, parce qu'on a vraiment une part de l'autre. Et c'est ça qui est fabuleux dans la voix, c'est-à-dire ce que j'entends, c'est pas ce que l'autre entend tout à fait, donc je dois accepter que l'autre entende une partie qui n'est pas celle que j'entends.
Oui, alors là, que ce soit l'âme des personnes, mais aussi l'âme des pays, des cultures, quand on se promène dans un quartier, on entend différentes langues, on ne les identifie pas forcément, mais c'est comme si on se promenait entre les âmes de différents pays aussi.
Je crois que c'est vraiment la beauté qu'on n'a pas encore vraiment vécue. J'avais, à l'occasion, justement, à l'époque où les Roms avaient été rejetés de France, hein. Justement, j'étais montée à Lille pour chanter un morceau dédicacé pour leur cause, parce que ça, pour moi, ça va être la cause, parce qu'il y a une... dans leur voyage nomade, il y a quelque chose qui nous ressemble. On est sur Terre, mais finalement, on voit bien à quel point c'est fragile de vivre sur Terre, quoi. Que finalement, ce qui nous est donné peut nous être enlevé, quoi. Et dans la culture de l'autre, c'est immense ce qu'on peut découvrir aussi de son regard sur nous, de voilà. Et je trouve qu'on passe à côté de ça. Il y a plein d'élèves étrangers dans les classes qui parlent d'autres langues, et ça, on découvre pas ces langues-là, alors qu'on a l'occasion de les découvrir. Ils sont là. Il y a plein d'étrangers dans nos quartiers et tout, mais on les entend pas. On les voit pas, ils sont plutôt entre eux, parce que finalement, on n'a pas l'air tellement d'accepter non plus qu'ils aient une culture différente. Il faut s'adapter, comme on dit, mais c'est très bien de s'adapter, c'est très bien de comprendre comment ça marche sur place. Mais... ce forçage-là, finalement, c'est pas un échange, c'est pas une réciprocité, c'est pas... je crois que ça marche pas. En fait, véritablement, en tout cas, moi, ce que j'observe aujourd'hui, sur le plan social, c'est que le « adaptez-vous » et puis on vous dit ce que vous avez à faire, c'est unilatéral. Il n'y a pas de réciprocité. Il y a eu cette absence-là, ça ne marche pas. C'est impossible que ça marche. Parce que justement, le social, il est à cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu seulement pour ramasser les morceaux, hein. Il est là pour dire, vu que ça marche pas là, on va vous donner un petit peu ici, parce que comme ça sera un petit peu moins dur, etc. Donc c'est un peu, finalement, les pansements, le social. Alors qu'à la base, c'est pas du tout cette vocation-là. Le social, c'est une source de structuration et de résolution du lien social. Entre la personne qui est sur le terrain et puis celui qui prend les décisions parce qu'il a fait des superbes études théoriques et donc il sait que ça marche comme ça parce que les statistiques lui ont dit que ça marchait comme ça. Heureusement, ils sont pas tous ignorants de la raison du terrain, du fonctionnement du terrain, mais quand même, on se rend bien compte d'une scission, justement, du lien social entre les personnes qui prennent les décisions en haut, et puis les gens de terrain en bas. Alors c'est très schématique ce que je dis, c'est presque exagéré, c'est même caricatural, mais en même temps, c'est sûr qu'il n'y a pas plus bas que le maraîcher et l'agriculteur, hein, parce qu'au moins il touche le sol, il touche la terre.
Oui, on garde lointainement quelque chose de cette dimension racinaire de ces secteurs-là, avec la notion de secteur primaire, l'agriculture, la pêche. Mais aujourd'hui, dans quel état est ce secteur primaire qui est censé être le socle ?
Si on n'avait pas ces regards aussi avec ce pragmatisme statistique C'est un pragmatisme statistique, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais à partir du moment où c'est unilatéral, encore une fois, et que on n'écoute pas en face ce que nous disent les gens, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils réalisent sur le terrain, parce qu'il y a quand même un minimum de reconnaissance, c'est-à-dire c'est pas parce que, voilà, encore une fois, on retombe sur les bons vieux schémas de celui-ci, il a ça, donc s'il a ça, ça veut dire que si, etc. Donc en fait, une incapacité à arriver à l'évidence que, bon, bah, en fait, s'il y a cette connaissance-là en face, c'est qu'ils savent quand même de quoi ils parlent. Ils sont tous les jours sur le terrain, donc ils ont quand même quelque chose à dire. Et que finalement, ça a perdu du terrain, et donc les agriculteurs, les maraîchers, ils ont perdu du terrain, du terrain, du terrain, c'est moins qu'on puisse dire. Parce que pendant très longtemps, il y a eu quand même le regard que, ils n'étaient pas très futés, donc c'est pas à eux de prendre les décisions, hein. Il faut quand même des gens qui sont beaucoup plus futés, qui ont fait des études, etc. Et tout. C'est ce qui, en général, a permis aussi des hauts niveaux d'extermination, donc il faudrait quand même faire le point depuis le temps. Et petit à petit, finalement, la théorie l'emporte sur le manuel, sur le métier, finalement. Et donc, petit à petit, c'est la théorie unilatérale qui l'a emportée, et faisant fi de la réciprocité une fois de plus. Alors que nombreux sont ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme.
C'est ça. Est-ce qu'une des beautés du social, ça n'est pas l'inventivité, la capacité d'adaptation et de développement de choses dirigées vers le bien commun ? Il y en a en fait beaucoup. Alors, mais est-ce qu'une des beautés du social, c'est pas tout simplement toutes ces personnes qui arrivent à converger, à mettre en accord des différences et à redonner au monde dans lequel on grandit et on meurt une tronche, quoi. Un monde où on a envie d'être et de rester.
Je pense que l'image de la sève, j'aime assez. Parce que la sève, on la voit pas tout le temps, en fait, quoi. Elle est là, elle monte, elle descend. Il fut un temps où on observait bien la sève pour ramasser le bois juste au moment où il fallait, pour qu'il soit assez dur, résiste plus longtemps. Donc ça, c'est des choses qu'on a un petit peu oubliées. Pas tout le monde, mais quand même. Je crois que c'est toutes ces personnes-là qu'on ne voit pas trop, parce qu'ils sont très actifs. Ils ont beaucoup de choses à faire. Et se représenter au monde, ça prend énormément de temps, et j'en sais quelque chose. Quand on travaille dans le social, il faut être sur deux plans, hein. Il y a le travail de fond, le travail de communication, le travail avec les pouvoirs publics. C'est vrai qu'il y a une somme interminable de travail, et je dirais presque parfois qui est inœuvrable. Il n'y a pas de feeling, comme on dirait. Et du coup, on se heurte en fait au mur du silence, de la négation, etc. Et je crois que nombre d'entre nous évitent. Ils ont plus envie en fait. Ils sont blasés de ça. Et ça se comprend très bien. On est doué de langage quand même, hein. On est censé être capable de se comprendre. Est-ce qu'on a vraiment l'autorisation de laisser comme ça des propositions, des personnes qui sont force de travail, qui sont prêts à s'y mettre, etc., et qu'on laisse comme ça en plan, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. Et finalement, on les amène dans une errance qu'ils n'ont pas du tout. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire.
Et oui, l'imagination n'est pas l'apanage de la start-up nation, cheveux dans le vent.
C'est justement quand je disais en début d'émission, on a amorcé un certain nombre de choses, la crise qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'une crise, c'est quoi en fait? C'est un excès de quelque chose, c'est un excès tout court qui nous a mené à un endroit où en fait on n'avait pas véritablement la sensation d'aller, mais on y allait quand même. Et finalement, de cet excès, on est amené à une crise qui n'était pas prévue. Si on pouvait prévoir la crise, en général, on saurait que c'est pas bon, on n'a pas envie d'y aller, quoi, donc on va pas y aller. Hein. Mais en fait, elle arrive toujours de manière imprévue. On sait qu'elle va arriver, on pressent qu'elle va arriver, hein. C'est un peu comme une vague ou un tsunami. Hein. Il y a des prémices, il y a des choses qui disent, il y a les animaux qui pressentent, etc. D'ailleurs, et là, voilà, ça nous tombe dessus, quoi. Et alors, ce premier réflexe, c'est pas forcément de se dire, bon, alors, on va faire... ok, on met tout à plat. chacun a son mot à dire, on va se concerter, ici, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, alors oui, mais on n'a pas entendu eux, parce qu'ils ont des choses à dire aussi, ta ta ta. Mais non, ce serait trop long, parce qu'en général, c'est tout ce qui nous est retourné, hein. Ce serait trop long, c'est vrai que depuis le temps, on n'a pas le temps, hein, depuis des milliers d'années, on n'a pas le temps de se concerter, quoi. Et puis, soit c'est ça, soit c'est, ben, on n'a pas ce qu'il faut comme finance, quoi, donc on va pas aller par là, hein. Et puis finalement, on voit que c'est pas du tout le problème, entre guillemets. On arrive à débloquer des sommes astronomiques pour sauver des choses qui sont insauvables, enfin. Et du coup, là, on a ce phénomène de crise, quoi, qui nous emmène finalement non pas à faire ce premier geste que sain, qui est de « bon, ben, ok, on se calme ». Et on se calme, on m'a dit bon bah il faut se calmer, donc je vais vraiment regarder de quoi il s'agit, regarder patiemment et tout. Et non, en fait, on va prendre le contre-pied, on va vouloir voilà, on va start-upper par exemple à fond, bon bah même si c'est complètement déficitaire, par exemple, on va complètement investir là-dedans parce que c'est innovant, etc. Alors du coup on est allé vers le numérique à fond, le digital, etc. Donc tout ce qui va amener finalement une certaine virtualité qui était déjà là évidemment, hein, mais qui a été vraiment exponentielle très vite, nouvelles technologies, etc. Donc moi j'ai rien contre parce qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes, mais encore une fois pas en excès, quoi. C'est un peu comme l'histoire de bon bah on n'a plus de pétrole mais on va faire du colza, quoi. Donc on va faire tous les champs en colza, enfin. Donc on passe d'un extrême à l'autre comme ça, et finalement on retombe sur une crise. C'est un petit peu l'évidence, et à chaque fois elle va être de pire en pire, en fait, cette crise, parce que comme on nie complètement là d'où on vient, hein, c'est-à-dire il y a encore plein de crimes contre l'humanité, de génocides qui sont pas reconnus par les pays où qui les ont commis, même la France ne reconnaît pas tous ces génocides qu'elle a fait dans son propre pays, donc on se doute bien qu'on n'en a pas fini avec l'état de crise, quoi.
La beauté, c'est quelque chose qui ruisselle, c'est un petit ruisseau, mais il y a aussi le désert. Jean-Patrick Capdevielle, Quand t'es dans le désert.
T'es dans le désert, depuis trop longtemps. Trafiquant d'armes, on est 50 millions de poètes. C'est ça qui doit faire notre charme. Sur une ligne de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle, mais tout le monde s'en fout. Vendredi, ton bande nulle part, y'a Robinson le solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île. Vous auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps.
En cas de crise, qu'est-ce qui tient le mieux la route en général, ce sont quand même les cellules les plus racinaires. Les plus, je veux pas dire enracinés parce que ça peut amener vers des glissements polémiques dont je me garderai, mais les plus racinaires, donc les souches de la vie sociale qui sont les familles, les amitiés, les localités, etc. Ça fait revenir à la notion d'économie dont évidemment on nous rebat les oreilles beaucoup, 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 l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire économie ? La racine grecque de ce mot, c'est tout de même oikos, la maison, le foyer. Et donc, il y a la question de la culture de faire entreprise en famille ou de faire entreprise avec les personnes de notre entourage proche, que ce soit un entourage amical, collaboratif ou tout simplement territorial. Parce qu'il y a plein de situations où déjà commencer à faire des choses avec les personnes qui habitent juste à côté de chez nous, c'est en fait, on ne peut plus naturel, mais ça ne l'est plus. Ou disons, c'est devenu rare que ce soit le cas. Et est-ce que le plein fouet du Covid, là, ne peut pas aider à nous ramener à regarder de façon un peu plus naturelle, justement, ce qui fait qu'une société tient la route?
Je pense que ce serait une très bonne chose, voire même ce serait, si je peux donner un grand mot, ce serait magnifique d'arriver à ça. Que la famille, finalement, redevienne ce qui fait entreprise. Quand je disais justement que y a des choses qui étaient bien amorcées, la crise de la famille était bien amorcée. Là, il n'y a aucun problème. Ici, en France, malgré qu'on nous présente justement le côté la famille, c'est important, etc. C'est pas parce qu'on dit que la famille est importante qu'on fait entreprise, quoi. Faire entreprise, on voit bien, c'est pas possible de faire entreprise quand on se fait pas confiance. On va pas faire confiance à un associé en qui on n'a pas confiance. Ça paraît idiot ce que je dis, hein, mais c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que dans la famille, se faire confiance et en toute conscience, oui, ça paraît inné, mais pas du tout. Moi, je crois qu'on pourrait y arriver si on est capable, déjà au sein de la famille, d'admettre la notion de différence. On arrive à accepter que l'autre soit différent de soi et qu'on soit capable justement de se concerter sur ce niveau de différence dans la société. C'est-à-dire, là, il y a un super miroir social. Il y a un miroir de société au niveau de la famille. On dit de l'école que c'est une micro-société, mais à ce moment-là, c'est la famille, c'est l'éthos, quoi. C'est l'éthique, c'est carrément le fondement de la société. C'est justement, c'est l'éco-nomie. C'est vraiment le moment où on a tout l'écosystème, la racine, mais aussi, j'aime bien moi rappeler cet aspect-là, hein, quand on parle du racinaire, c'est les mycorhizes. C'est-à-dire ce qui va protéger la santé, ce qui va amener justement l'équilibre du terrain, qui va justement générer plus loin l'aura en fait des racines. Et ça, c'est important, parce que c'est fait des petites choses, quoi. Et c'est évident qu'une famille qui fait cet effort de se comprendre, hein, un peu comme deux parents séparés qui apprennent à se comprendre parce qu'ils ont un enfant quand même en commun, quoi. Donc ils font l'effort de se comprendre parce qu'ils sont tellement en fait différents qu'ils n'ont pas pu rester ensemble, ce qui est quand même incroyable à reconnaître. Et donc dans une famille, évidemment, comme on est ensemble, comme on est perpétuellement ensemble, il y a cette proximité, cette proximité avec le détail. Dans la société, on nous laisse le choix, encore une fois, on nous laisse le choix d'être raciste, on nous laisse le choix de dire à l'autre va te faire cuire un œuf, on nous laisse le choix d'ignorer, de bafouer. Donc il y en a, ils prennent l'opportunité, puis ils disent bon, de toute façon, ça va marcher mieux comme ça, donc hop, sous le tapis, les problèmes familiaux, sous le tapis, les erreurs qu'on a pu faire, etc., plutôt que de les reconnaître et puis finalement faire table rase du passé, comme dirait Bachoum, à la surface des regrets.
C'était l'émission Il disegno, qu'on retrouve une semaine sur deux, de 19h à 20h. Alors rendez-vous le 21 mai, déconfiné. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, les podcasts sont disponibles. Celui de ce soir sera disponible très prochainement sur si-lab.fr, la page de l'émission Il disegno. Alors, on se quitte avec Ma petite entreprise d'Alain Bachung. On espère que dès lundi, les portes fermées deviendront des portes ouvertes. Merci. Arrivederci.
Ciao.
Connais pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Jardin d'une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper.
palpé là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances.
Abstinence,
ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant.